Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Après plus de 2 mois de fermeture pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le Maroc va réautoriser les vols internationaux dès le 7 février prochain. 82% des Tunisiens seraient, selon le président tunisien, favorables à un régime présidentiel. C'est ce qu'affirme le chef de l'État qui s'appuie sur les résultats préliminaires de la consultation électronique nationale. La Tunisie, où le président du Parlement, suspendu en juillet dernier, Rached Ranouchi, met en garde contre une explosion sociale après que le chef de l'État s'est attribué des pouvoirs exceptionnels. Il s'agit d'avoir le courage de tout regarder en face sur les questions mémorielles entre la France et l'Algérie. Propos signé Georges Morin, membre de la commission Mémoire et Vérité, présidée par Benjamin Stora. Georges Morin sera l'un de nos invités. 6 roquettes ont été tirées à l'aube sur l'aéroport international de Bagdad, en Irak. L'invité de rencontre ce samedi à 16h est Patricia Elias, avocate en droit international, militante pour les droits humains. Elle va présenter un rapport sur la situation des femmes au Liban le 14 février à Genève, extrait dans votre journal. Valérie Pécresse veut valoriser le métier d'enseignant avec une augmentation des salaires, notamment en début de carrière. C'est ce qu'indique Geoffrey Carvalino, responsable de la vie militante au sein de l'équipe de campagne de la candidate. Il sera l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Vous l'entendrez dans cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations, début des quarts de finale ce samedi. Gambie-Cameroun à 17h et Tunisie-Burkina Faso à 20h. Le Maroc va rouvrir son espace aérien dès le 7 février prochain. Cela concernera les vols au départ et à destination du pays. Cette réouverture interviendra après plus de 2 mois de fermeture. Les autorités indiquent que cette décision intervient suite aux recommandations de la commission scientifique et technique et prenant en considération l'évolution de la situation épidémiologique dans le royaume. Les autorités qui étaient sous la pression d'un secteur touristique en grande difficulté. Les frontières marocaines sont closes depuis le 29 novembre dernier en raison de la du variant Omicron du Covid-19. Le Maroc, qui a lancé la construction d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid, elle doit démarrer sa production en juillet prochain et assurer l'autosuffisance vaccinale du royaume. Voilà ce qu'indique l'agence de presse marocaine, la MAP. L'inauguration du chantier a été présidée par le roi Mohamed VI à Ben Slimane dans la région de Casablanca, la capitale économique du royaume. Emmanuel Macron a fait mercredi un nouveau geste mémoriel à l'occasion de la réception d'associations de rapatriés d'Algérie à l'Élysée. Le président français, qui a qualifié la fusillade de la rue d'Isly en mars 1962 d'impardonnable pour la République, des propos devant un parterre de rapatriés. Parmi les personnalités présentes, Georges Morin, membre de la commission Mémoire et Vérité, présidée par Benjamin Stora, entretien.
Emmanuel Macron, on en pense ce que l'on veut, on a ses opinions politiques, mais s'il y a un sujet sur lequel il est d'une clarté absolue, c'est sur l'Algérie. Il a eu le courage, de même façon que François Mitterrand a dit avant d'être élu qu'il a souhaité l'abrogation de la peine de mort. Le président Macron a eu le courage de dire que le système colonial est un crime d'État. Ce qui lui a valu beaucoup de reproches, bien entendu, mais qui est une vérité. Hein, le système colonial, moi j'en suis issu, hein, je suis pied noir. C'est un système qui était insupportable parce que je crois que la France a piétiné pendant 132 ans toutes ses valeurs, l'égalité, la fraternité, la liberté. Il y a eu des hommes qui ont essayé de réformer le système, Napoléon III, Georges Clémenceau, Léon Blum, le général de Gaulle, mais on n'a jamais réussi à sortir d'un système colonial qui était encore... Donc voilà, donc première étape, c'était cette qualification de crime d'État, parce que voilà, on a bâillonné un peuple pendant plus d'un siècle, voilà. Là ensuite, je trouve que tout ce qu'a fait Macron au niveau de la reconnaissance de la culpabilité de l'armée française pour Maurice Audin, pour Boumengel, voilà. L'hommage qu'il a rendu aux morts du 17 octobre 1961 à Besançon, j'y étais aussi. Là, vraiment, il est impeccable. Donc, moi, je trouve que ces diverses initiatives sur l'Algérie, c'est lui qui a commandé le rapport de Benjamin Stora. Benjamin Stora qui a été un des créateurs avec moi de Coup de Soleil depuis 1985. Au début, j'ai été un petit peu... Je l'ai dit très très franchement à Benjamin. J'ai dit, écoute, on c'est un peu le catalogue de la redoute. Il y a beaucoup de... Il m'a dit, mais écoute, c'est une commande du président. Il voulait des choses concrètes. Qu'on arrête de philosopher en permanence. Et j'ai gardé pendant un petit moment ce sentiment. que c'était un peu un catalogue. Beaucoup de gens l'ont ressenti un peu comme ça. Et puis je me suis rendu compte petit à petit que en prenant l'escalier marche après marche, on finissait par aplanir un peu le caractère très acide et très agressif chez tout le monde de ces mémoires. Et finalement, les choses se passent, je trouve, de mieux en mieux. Je parle vraiment surtout ici de la réconciliation des mémoires plurielles d'Algérie en France. Parce qu'il y a les mémoires issues de l'immigration, il y a les mémoires des Harkis, il y a les mémoires des Pieds Noirs, il y a les mémoires des... Plus toutes les mixités qui se sont greffées, vous vous rendez compte, quand même, il y a les grands-pères, il y a les pères, il y a les fils, voilà, trois générations au minimum. Et je trouve que plus les choses avancent, je repense à des amis comme Jacques Ferrandez, le dessinateur Jacques Ferrandez, ou bien Joël Alessandra, qui est de Constantine comme moi, on aurait pu s'imaginer après l'indépendance que, après l'horrible drame qui a frappé les Pieds Noirs, 900 000 personnes qui, du jour au lendemain, elles n'ont pas été mises dehors. Elles ont eu peur, parce que l'OS, pendant plus d'un an, a été un cataclysme, vraiment, qui a fichu tout en l'air. Et il a fallu attendre. On rêvait tous, moi j'étais gamin à l'époque, mais on rêvait tous, il fallait qu'on change le système, mais il fallait pas que ce soit les gens qui étaient sur place qui le payent, quoi. Les Pieds Noirs sont pour rien dans le système colonial, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est pas eux qui ont commandé à Paris, voilà. Donc c'est cette injustice profonde, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Il faut que la France reconnaisse qu'elle a créé ce système et que surtout on arrête de jeter la pierre contre les Pieds Noirs là-dessus, voilà.
Il s'agit de ne pas opposer les mémoires, c'est aussi le sens de cette cérémonie de ce mercredi.
Absolument, il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit d'avoir le courage de tout regarder en face. Je crois que c'est très simple. C'est pas évident, mais j'étais tout à l'heure au musée des armées où il y a un général qui s'occupait de l'exposition sur l'émirat d'Al-Qader. Vous savez qu'il y en aura une à Marseille, il y en aura une à Paris. Il nous a rappelé qu'en 2012, l'armée avait organisé aux Invalides une exposition où il y avait la reconnaissance par l'armée française de la torture dans la guerre d'Algérie. Voilà, c'est comme ça. Il faut, pourquoi on a peur de l'histoire? L'histoire, elle existe, qu'on le veuille ou non. Hein, elle s'impose à nous. Il faut simplement qu'on la regarde en face et qu'on la regarde ensemble. Et puis après, il peut y avoir une multitude de regards autour. Ça aussi, c'est important. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait toujours. Chacun regarde. Je me rappelle Jacques Ferrandez m'expliquant que dans ses carnets d'Orient, il a toujours tout fait pour que un même événement soit regardé par les yeux des nationalistes, des indépendantistes, des Pieds Noirs. Enfin, vous voyez, et même dans toutes ces communautés, il y a énormément, il y a une fragmentation terrible. Il n'y a pas de peuple de moutons. Hein. Moi, j'ai horreur de ça. Les Pieds Noirs pensent ceci, les Harkis pensent cela. Voilà. Donc, je pense que tout cela, c'est un effort qui ne peut que faire du bien. Et au peuple algérien, au peuple français.
Voilà. Vous évoquiez l'émir Abdelkader. Oui. Sa mise en lumière fait partie des recommandations du rapport de Benjamin Stora. C'est important de mettre en lumière cette figure, notamment vis-à-vis de la jeune génération.
Absolument. Parce que ça a été un homme courageux, un chef d'État, qu'on le veuille ou non. Il a commencé à créer, il a tout fait pour essayer de créer une nation algérienne face à l'envahisseur. Il a été un combattant, il a été un grand théologien. Il a sauvé des chrétiens, vous savez, quand il était et on parlait ce matin justement de son petit-fils, hein, l'émir Khaled, qui a été un grand officier de l'armée française, voilà, qui était le petit-fils d'Abdelkader, voilà. Donc tout ça est réconciliable, et tout ça est extrêmement compliqué. Mais encore une fois, si on n'a pas le courage de regarder ça en face, on s'en sortira jamais.
Georges Morin, membre de la commission Mémoire et Vérité, présidée par Benjamin Stora. 6 roquettes ont été tirées ce vendredi à l'aube sur l'aéroport international de Bagdad en Irak. Il n'y a pas de victimes, mais un avion civil vide a été endommagé. Les roquettes sont tombées sur des aires de stationnement ou sur des pistes. Ces dernières semaines, des tirs de roquettes ou des frappes de drones piégés ont visé l'ambassade américaine dans la zone verte de la capitale irakienne, mais aussi un centre diplomatique américain installé dans une partie de l'aéroport et également des troupes de la coalition internationale anti-djihadiste stationnées sur des bases irakiennes. L'invité de rencontre ce samedi à 16h sera Patricia Elias, avocate en droit international, militante pour les droits de l'homme et les droits des femmes. Elle va présenter un rapport sur la situation des femmes au Liban le 14 février à Genève. Patricia Elias.
Malheureusement, nous sommes en stagnation depuis des décennies. Les femmes libanaises ne donnent pas la nationalité, ne peuvent pas donner la nationalité à leurs propres enfants et à leur mari si leur mari est étranger. Et dans le monde entier, il n'y a que 27 pays au monde qui limitent l'accès à la nationalité pour les maris et les enfants. Et uniquement 22 pays au monde, dans le monde entier, qui ne permettent pas à la femme de donner la nationalité à ses enfants. Donc le Liban continue, parce que le Liban a ratifié la convention CEDAW avec des réserves. En général, les pays arabes ont deux réserves, qui sont celles sur la nationalité et sur le statut personnel, à savoir mariage, filiation, divorce et héritage. Et donc le Liban ne manque pas à avoir ces réserves-là, malheureusement. Et donc pour la nationalité, il a émis cette réserve. Donc les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes de donner la nationalité à leurs enfants et à leurs maris étrangers. Un autre problème majeur, les femmes n'ont pas les mêmes droits concernant leurs enfants que les hommes. C'est-à-dire que la femme n'a aucun droit sur ses propres enfants, ce qui s'appelle le droit de tutelle ou, si vous voulez, l'autorité parentale. En France, nous sommes arrivés dans les années 75, avant c'était l'autorité paternelle. Dans les années 75, on est arrivé à l'autorité parentale, à savoir que le père et la mère ont les mêmes droits sur leurs enfants, sauf qu'au Liban, ça n'est pas le cas. C'est le père qui a entièrement l'autorité parentale. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'en cas de divorce ou en cas de mariage, c'est lui qui aura les enfants et qui a le droit de décider pour les enfants. Bon, nous avons évidemment 18 religions avec 15 statuts personnels régis par ces religions-là. Ça fait une discrimination notoire selon que vous êtes marié ou que vous soyez d'une religion différente pour vos enfants. Et donc, les droits de garde, c'est-à-dire que la mère, le père peut lui prendre, si, en cas de divorce, il peut prendre les enfants et la mère ne peut même pas avoir de droit de tutelle, de regard, de garde, aucune décision concernant ses enfants. Pareil, s'il y a décès du mari, le droit de tutelle des enfants est à un des hommes de la famille du père. Disons qu'au grand-père ou à un oncle paternel, plutôt qu'à la propre mère des enfants. Ça emmène à des cas de jeunes femmes qui, avec des enfants jeunes, de 8 ans, 9 ans, qui sont obligées de souscrire à tout ce que le mari veut, même s'il est violent, même s'il est bas, etc., pour pouvoir rester avec leurs enfants. Parce qu'en cas de divorce, il peut leur interdire même de voir leurs enfants.
L'avocate Patricia Elias, invitée de Rencontre ce samedi à 16h, émission présentée par Loïc Barrière. 82% des Tunisiens seraient, selon le président tunisien, favorables à un régime présidentiel. C'est ce qu'affirme le chef de l'État. Il s'appuie sur les résultats préliminaires de la consultation électronique nationale. Kais Saied assure que 92% des participants à la consultation ont pour le moment approuvé l'alternative de retirer la confiance aux députés de l'Assemblée des représentants du peuple, dont les activités sont actuellement suspendues. Et il s'agit là des personnes qui ont choisi de participer à la consultation proposée par le président tunisien. Une consultation qui porte sur 6 chapitres: la politique et les élections, l'économique et les finances, le développement et la transition numérique, le social, la santé ainsi que l'éducation et la culture. La Tunisie, où le président du Parlement suspendu en juillet dernier, Rached Ranouchi, met en garde contre une explosion sociale après que le chef de l'État s'est attribué des pouvoirs exceptionnels. Le dirigeant des Nardas s'exprimait lors d'une réunion en ligne de membres du Parlement, la première depuis que Kais Saied a suspendu les travaux de l'Assemblée. Rached Ranouchi évoque un isolement international étouffant, une flambée des prix et une situation sociale qui menace d'exploser en Tunisie. Les demandes d'asile auprès des 27 pays de l'Union européenne ainsi que de la Suisse et de la Norvège ont recommencé à augmenter en novembre dernier. C'est ce qu'indique l'Agence européenne pour l'asile. Les Afghans et les Syriens demeurent les deux principaux groupes sur un total de quelque 71 400 demandes, une hausse de 9% par rapport à octobre. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Geoffrey Carvalino, conseiller régional d'Île-de-France, responsable de la vie militante au sein de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle. Il évoquera notamment le projet de la candidate en matière d'éducation. Extrait.
Elle veut effectivement valoriser le métier d'enseignant pour résoudre déjà la crise des vocations, donc avec une augmentation des salaires pour les enseignants, notamment en début de carrière, et pour ceux qui acceptent notamment des missions supplémentaires dans les quartiers notamment populaires, mais aussi conseils ruraux de régionaliser le recrutement, parce que c'est vrai que ça peut aider quand on connaît un secteur de pouvoir être dessus. Et puis surtout pour moi, au-delà du professeur, c'est vraiment remettre les fondamentaux au cœur de l'école. Et pour moi aussi, elle va vraiment s'atteler, comme elle l'a fait en tant que présidente de région, à lutter contre le décrochage scolaire, qui sera un effort national et créera notamment une réserve éducative nationale pour aider au soutien scolaire. Et donc ça permettra à des enseignants retraités ou des personnes qui étaient proches du monde de l'enseignement ou même des étudiants à pouvoir venir en fait faire de l'accompagnement éducatif pour éviter qu'on ait du décrochage scolaire. Et donc vraiment c'est son projet, c'est un projet d'espoir, c'est pour donner une chance pour tous.
Geoffrey Carvalino, conseiller régional d'Île-de-France, responsable de la vie militante au sein de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. La Coupe d'Afrique des Nations, début des quarts de finale ce samedi, Gambie à Cameroun à 17h et Tunisie, Burkina Faso à 20h. Fin de cette édition. Un grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.